Alors, bonjour à tous. Dans cet enregistrement, on va voir ensemble 5 secrets qui transforment des commerciaux B2B en super commerciaux. En fait, c'est un article que j'ai écrit pour le blog de Sparklane, la solution de Sales Intelligence. Et donc, en fait, cet article-là, il est assez sympa, puisqu'en fait, j'ai essayé de donner quelques bonnes habitudes, surtout aux managers qui veulent en fait booster leur équipe commerciale. C'est vraiment orienté là-dessus parce que parfois les gens me disent voilà, la vente c'est un art, et il faut apprendre à vendre, etc. Or, en fait, on se rend compte que il y a du bon sens, il y a des méthodes et surtout un bon manager qui arrive à coacher ses équipes. En fait, j'aime bien une citation de Tom Landry que j'ai mis dans cet article qui disait voilà, un coach c'est quelqu'un qui vous dit ce que vous ne voulez pas entendre, qui voit ce que vous ne pouvez pas voir, afin que vous deveniez celui que vous avez toujours rêvé d'être. Donc en fait, tout simplement, un coach est là pour un petit peu vous montrer vos défauts, vous le dire, un petit peu vous voir d'un œil extérieur comment vous pouvez vous améliorer pour en fait être meilleur que ce que vous pensez. C'est souvent le cas parce que parfois on se contente en fait de la facilité, on ne sort pas sa zone de confort et donc le manager est là pour vous pousser au-delà de vos limites. Ça, c'est vraiment important. Donc un bon manager doit pas être un manager tyrannique. Moi, j'en ai connu quelques-uns dans ma carrière, des autoritaires qui en fait font en sorte qu'il y a peu d'initiative, qu'on n'ose pas le contredire, etc., etc. C'est vraiment pénible. Il faut venir avec une pile d'arguments, il faut lui montrer qu'il a tort et une fois qu'il a tort, il a du mal à l'admettre. Bref, il faut pas non plus avoir un manager laissé-faire. Ça aussi, j'en ai eu des gens qui essayent un petit peu de faire plaisir à tout le monde, mais finalement, faire plaisir à tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? On finit par tout simplement soit ne pas être efficace, soit tout simplement laisser un petit peu les gens faire ce qu'ils veulent sans arriver à l'efficacité maximale. Donc en fait, il faut tout simplement avoir le meilleur des deux, on va dire, et trouver une personne qui vous aide à progresser au-delà de votre zone de confiance afin de vous inciter à aller au-delà de vos capacités. Alors, je vous dirais, moi à chaque fois, je reviens un petit peu sur des choses qu'on connaît déjà, c'est le sport, hein. Dans le sport, qu'est-ce qui se passe? Et bien souvent, on voit que le résultat d'une équipe, en fait, il dépend du coach, hein. C'est parfois en fait un fusible, hein. Moi j'ai déjà vu dans pas mal d'équipes de foot, hein, c'est le coach qui est comment dire, le fusible quand ça va pas, quand les résultats sont mauvais, mais c'est aussi lui qui arrive à mettre une étincelle et à transformer des joueurs qui sont classiques en joueurs qui vont vraiment exploser leurs résultats. Donc ici, je vous ai mis des habitudes pour améliorer l'efficacité de votre équipe commerciale ou de vos commerciaux. Alors la première chose en fait, c'est mettre de la psychologie en fait dans votre vente. Alors moi, je trouve qu'il y a deux livres fondateurs, deux livres. Le premier en fait, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est un bouquin qui date quand même des années, je sais pas, 70, 80, qui a été réactualisé une ou deux fois et qui est vraiment encore très très vrai. Et Robert Cialdini est encore vivant, en tout cas, il a encore fait des vidéos sur YouTube pas très longtemps, et c'était une série de livres qui s'appelle The Small Big Change, les petits changements qui font des gros effets, grosso modo, qui sont vraiment intéressants. Vous allez sur YouTube, hein, et vous pouvez directement aller sur, voilà, Small Big Change, voilà, et vous tapez. Hop, Small Big Change, et vous avez en fait la petite vidéo. Voilà, donc ici vous avez quelques petites animations qui vous expliquent comme quoi un tout petit changement peut avoir des grosses opportunités, à la fois au niveau business, à la fois au niveau tout simplement motivation. Il donne des cas sur avoir des efforts qui sont importants à faire. Par exemple, il indique en fait dans une de ses exemples que par exemple quand on va dans un restaurant et qu'on a un bon au bout de 10 visites, en fait l'effort paraît vachement important. Par contre, en fait, si vous reprenez le même effort, mais en disant voilà, vous avez 3 ventes à faire et au lieu d'avoir 30%, vous avez droit à un petit cadeau, c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, il faut tout de suite que la tâche effectuée soit beaucoup plus facile à faire que d'aller en fait devoir faire un gros effort. Donc l'intérêt, c'est au lieu d'avoir un effort qui est très important, on va faire quelque chose qui va être simple. Bon, ça, c'est au niveau du marketing, mais de la vente, hein, mais bon, c'est quand même un livre intéressant à regarder. Donc, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Le deuxième bouquin, c'est Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert Vincent Boulle et de Jean-Léon Beauvois. Donc, ces deux bouquins sont vraiment sympas et permettent en fait de connaître les leviers de la motivation, de la psychologie pour la vente. Alors, parce qu'il y a vraiment de la psychologie dans la vente, hein, moi je l'ai vu souvent, parfois c'est pas le prix qui fait la différence. Parfois, c'est la confiance, la relation. Alors, je dirais quand même qu'il faut un petit bémol, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de l'interlocuteur qui est en face de vous. Par exemple, pendant à peu près 4-5 ans, j'ai travaillé avec un super commercial hein, qui était dans le domaine des logiciels. Et en fait, ce super commercial, qu'est-ce qu'il faisait? Enfin, super commercial. Dans certaines ventes, arriver en fait à mettre une relation d'amitié, une relation de complicité entre guillemets. C'était assez marrant parce que tout de suite il arrivait à tutoyer les gens, il arrivait un petit peu à devenir leur entre guillemets leur pote, et ça lui permettait en fait de décrocher quelques affaires. Alors ça marchait parfois avec un certain nombre de personnes qui sont orientées là-dessus, qui cherchent plutôt quelqu'un qui est plutôt amical, etc., etc. Et au contraire, ça, avec certains clients, oh là là, c'était tout de suite, ça passait pas du tout bien. Dès qu'il y avait un client qui était un peu carré, un peu sérieux, qui était là pour faire des achats, bam, ça pétait, et il y avait des ventes comme ça qui étaient complètement foutues parce qu'on savait que la personne qui était en face de lui n'allait pas. Donc en fait, il faut véritablement essayer de s'adapter au profil psychologique de la personne qui est en face de vous. J'ai écrit un article là-dessus il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle Je ne m'entends plus avec mon boss. C'est en fait un article que j'ai écrit il y a quelques temps sur avec mon boss. Voilà, vous tapez sur internet, je m'entends plus avec mon boss. Et en fait, c'est un article où j'explique pourquoi en fait on s'engueule et pourquoi on s'entend pas avec son patron. En fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des profils psychologiques qui existent il y a des traits de caractère. Par exemple, il y a souvent des boss qui se divisent en quatre, grosso modo, quatre portraits. Hein. Bien sûr, c'est des caricatures, mais c'est quand même assez intéressant. Il y a l'autoritaire, grosso modo, c'est le Napoléon qui est commandeur. Autoritaire, exigeant, pragmatique, décideur, vif et lunatique. Après, de l'autre côté, vous avez le fédérateur qui essaie de faire plaisir aux autres, qui est négociateur humain, qui gère le consensus. Après, vous avez le visionnaire qui est désorganisé, qui est par contre inspiré, enthousiaste, créatif, etc., etc. Puis l'organisateur qui est super carré, procédurier, etc., etc. Et selon la personne que vous avez en face, il faut bien sûr s'adapter. Avec un organisateur, typiquement, si vous avez affaire à un comptable ou un financier, il faut être rigoureux, il faut que les chiffres savons, faut pas qu'il y ait de fautes, faut indiquer les procédures, etc., etc. Tandis que si vous faites ça, par exemple, avec un visionnaire, quelqu'un qui est complètement décousu, lui, au contraire, faut lui vendre des idées, faut lui vendre du rêve, etc., etc. Donc, en fait, il faut savoir comme ça s'adapter à la personne qui est en face. Alors bon, ça c'est des petites techniques. Il existe encore des techniques beaucoup plus simples qu'on peut appliquer partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des gros efforts psychologiques. Par exemple, c'est la réciprocité. Ça, on le voit dans le livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation. Quand vous offrez un petit cadeau, même symbolique, tout simplement, vous allez le rendre redevable et ainsi vous allez, entre guillemets, l'obliger à vous rendre aussi un service. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois, hein, par exemple, dans le domaine de l'immobilier, souvent, le vendeur d'immobilier, il faut viser, il fait visiter l'appart, il vous offre un petit porte-clés en disant ah mais quand vous aurez votre appartement, comme ce sera peut-être vos prochaines clés. Et là vous dites ah il est vachement sympa, il m'a offert le porte-clés, blablabla. Or en fait non, c'est pas ça, c'est juste un truc pour vous rendre un petit peu redevable en vous offrant ce petit cadeau et en se disant ah ouais ce mec est vachement sympa. Ça je l'ai vu très souvent dans le domaine immobilier. On peut le voir également avec des goodies qu'on emmène chez les clients. Donc c'est un petit système qui coûte pas cher et qui marche bien. Moi je vous conseille toujours d'aller chez des prospects avec un petit cadeau. Voilà. Alors il y a les généralités. Après, bon, faire attention un peu, mais il y a certains trucs qui marchent bien. C'est par exemple, je l'utilise chez moi, ou je l'ai encore vendu hier, ou mon voisin l'utilise, ou j'ai le même à la maison. Alors bien entendu, il faut faire attention à pas faire trop faux. Hein. Il faut raconter des histoires vraies et essayer de rentrer dans les détails. Il faut pas juste dire, tiens, ben, j'ai le même à la maison. Faut dire, moi j'avais ça. Ensuite, j'utilise pour faire ça. Il faut que ça fasse vrai, que ça montre en fait une vraie utilisation. C'est surtout vrai en B2B. On peut utiliser son application dans son entreprise. Et ça, c'est vraiment la meilleure publicité parce que nous, on l'utilise, regardez, je vous le montre, on l'utilise tous les jours. Voilà. Alors, après, il y a la fausse belle histoire. Ça, c'est la belle histoire. Ah, j'ai un client encore hier au téléphone qui est super content. Ou, ah, ben, ça me rappelle mon client que j'ai encore revu hier qui est venu, etc., etc. Alors, c'est des techniques qui marchent pas mal, mais encore une fois, il faut être véridique et il n'y a rien de mieux de dire, ouais, j'ai un client qui est super content. Bah, si vous voulez, même, vous pouvez l'appeler de ma part. Et là, on change complètement de registre. Au lieu de c'est un client qui m'a appelé au téléphone comme par hasard hier, c'est de voilà, j'ai un client qui s'appelle Toto. D'ailleurs, si vous voulez, je peux même demander est-ce que vous puissiez l'appeler pour avoir des informations. Et là, bam, on repart du sens contraire et là, tout de suite, on est super crédible. Et ça marche pas mal. Si vous pouvez avoir comme ça une liste de références chez vos clients, bah, vous allez vraiment faire la différence par rapport à vos concurrents. Alors, faire des promesses orales et jamais par écrit, ça, on le voit tout le temps. Hein. Il y a certains vendeurs roublards qui utilisent ça. Ils vous disent oui, on fera des réductions. Et en fait, bon, bah, c'est surtout vrai dans les centres d'appel. On dit ça au téléphone. Et puis après, derrière, bah, c'est pas ce qui va se passer parce qu'on n'a pas d'écrit, on peut rien faire. C'est votre parole contre la sienne. Surtout quand il n'y a pas de contact, il n'y a pas de contact direct. Si vous tombez sur différents vendeurs, là, la confiance ne se met pas. Alors. Il y a aussi, on le voit souvent, c'est le secret et la confidence avec l'offre qui est uniquement pour vous parce que vous m'êtes vraiment sympathique. Ça, c'est quelque chose en fait qui est une manipulation vraiment classique. Hein. Vous êtes sympa, vous m'êtes sympathique parce que vous êtes jeune, ah, parce que vous me rappelez ma fille, est-ce que parce que ceci, parce que cela. En fait, c'est justifier le fait d'accorder une promotion. Alors, faut toujours faire ça, justifier une promotion. Si vous faites un emailing, si vous faites une promo à rabais, faut expliquer pourquoi. Parce qu'autrement, on se dit, tiens, bah, si j'ai ça, mais pourquoi il y a une arnaque à quelque chose ou peut-être qu'il peut me faire encore un prix. Donc, il faut toujours justifier en disant, voilà, c'est un modèle de déstockage ou bah, voilà, c'est la fin du mois ou c'est ceci, c'est cela. Et bien sûr, mettre une notion d'urgence. Parce que ben, les prix s'arrêtent dans 3 jours, parce que ceci, parce que cela. Alors d'expérience, généralement les promotions qui marchent le mieux, en tout cas en B2C, en B2B c'est plus compliqué parce que ben, on n'a pas forcément des délais courts de décision, mais généralement un délai de 3 jours c'est ce qui marche le mieux quand on fait de promotion. Moi j'ai déjà vu, hein. Il y a un pic au départ, ensuite ça se descend, et ensuite on a un email qu'on renvoie juste avant la date, et là, boum, c'est là qu'on fait les plus grosses ventes. Hein. Voilà. Ensuite, jouer sur la présentation du prix. Alors ça aussi, je me suis bien amusé à l'époque. Hein. Parfois, en fait, avec des prix par mois, tout ce qui est box, abonnement, etc., les gens n'ont pas une véritable idée du coût. Je me souviendrai toujours il y a quelques années, quand Free arrivait sur le marché de la téléphonie, le montant que je payais par mois, je pense que je vais payer 60 ou 80 € par mois de forfait téléphonique, alors que maintenant je me dis merde, je paye 15 € ou 20 €, je crois que c'est 19,90. Je me dis merde, c'est pas possible, on payait ce montant-là. Et surtout, en fait, bon, 80 €, 20 €, 60 € par mois, ok, ça, on se dit, bon, c'est pas si énorme que ça. Sauf qu'en fait, qu'en présentant un prix par mois, voire un prix par jour, bah, ça fait une différence énorme. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, bah, ça fait ok 20 €, mais vous multipliez par 12, ça devient énorme. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un forfait qui est grosso modo à 20 € par mois, donc multiplié par 12, hein, donc ça fait, on va dire, 200, 240 €, voilà, 240 €, vous multipliez par 2, ça fait 520, 580 €, 540 €, 540 €, 580 €. Donc en fait, c'est assez énorme. Donc en fait, là, quand on se dit, c'est quasiment du simple, enfin, c'est du simple au double et c'est pas des petits montants. Donc en fait, une technique parfois qui est utilisée, c'est ça, c'est comparer avec un prix qui est difficilement comparable. C'est-à-dire que ben, un prix de 240 €, c'est 1 euro par jour. Ou alors c'est comparé, moi je les faisais, attendez, votre produit c'est uniquement le prix d'un café par jour. Est-ce que vos commerciaux ne valent pas, est-ce que l'efficacité de vos commerciaux ne vaut pas le prix d'un café par jour? Voilà. Et là tout de suite, bah oui, un café par jour c'est vrai, c'est rien. Ou je l'ai fait également dans des pages de vente en disant voilà, pour à peine le prix d'un café, d'une bière et d'une place de ciné ou d'un bon restaurant pour deux, ben, vous avez votre produit. Est-ce que ben, un bon restaurant, ça vaut pas le coup enfin, est-ce que ça vaut pas le coup d'investir dans notre solution au lieu d'avoir un restaurant et grâce aux économies que vous allez faire, aux gains de productivité, vous allez gagner ceci. Bref, des petits argumentaires qui permettent en fait de changer la comparaison entre les prix. Ça aussi, je l'ai fait, changer la comparaison entre les prix. Pour comparer ce qui n'est pas comparable. Souvent, les gens vous disent, bah ouais, votre produit il coûte tant d'euros par mois. Et en fait, vous dites, oui, mais attendez, c'est pas la même chose. Nous, dans le produit, il y a ça, 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 et puis il y a ça. Et en fait, il y a ça, souvent, c'est du service. Par exemple, on a une assistance juridique, on a une garantie, on a un accompagnement, etc., etc. Et comme c'est des choses qui ne sont pas comparables, parce que le service, c'est pas du matériel, c'est du virtuel, ça réussit vraiment très bien à se différencier des autres. Également, ce que moi j'ai fait quand j'étais acheteur, c'était jouer le rôle du bon et du mauvais flic. Alors ça, bon, c'est une technique qu'on voit tout de suite et qui marche très très bien. C'est quand en fait, ben, vous êtes le gentil acheteur qui veut acheter auprès d'un vendeur et vous dites, ben voilà. Moi, je voudrais bien commander chez vous, mais en fait, c'est mon chef qui veut pas. Ça, c'est une technique que même j'utilise encore maintenant hein, pour faire baisser les prix. Et il n'y a pas encore très longtemps, ça m'a permis d'avoir 20% de réduction sur un projet à plus de 10 000 euros. Donc, c'est quand même pas mal de pouvoir utiliser ce levier-là. Hein. C'est tout simplement dire, ok, bah, j'aimerais bien commander chez vous, mais voilà, je peux pas. Vous êtes trop cher ou ceci, cela. Et ça permet de négocier un prix directement. Donc, ça, c'est vraiment simple. Good Cop, Bad Cop. Et donc en fait, bah, on a toujours le gentil qui veut travailler et le méchant qui est là pour faire le méchant, justement. Alors après, il y a bien sûr les petites phrases. Vous êtes libre de choisir, mais vous faites ce que vous voulez, mais moi à votre place. En fait, c'est de l'orientation indirecte. Donc ça marche aussi pas mal. Alors, j'ai une petite vidéo qui est assez sympa, qui est en fait dans le loup de Wall Street. C'est une petite vidéo en fait où on va en fait voir ce que font les vendeurs roublards. Vous tapez en fait la vente, le loup de Wall Street, et là en fait vous avez exactement ce qu'il ne faut pas faire. En tant que vendeur, c'est un vendeur arnaqueur, un vendeur bonimenteur qui est là pour vraiment arnaquer les gens. Donc ce film-là, le loup de Wall Street, à cet égard-là, est vraiment intéressant parce qu'il montre vraiment ce qu'on doit pas faire. Voilà. Par contre, bon, ça, j'ai donné quelques exemples précédemment d'arnaques, entre guillemets, ou de choses que font les mauvais vendeurs, mais que vous pouvez exploiter à votre bon escient, mais dans un cadre en fait d'éthique et d'aide, parce qu'en fait, votre but, c'est aussi d'aller accompagner le client dans son choix. Parce qu'il y a pas mal de gens, en fait, qui arrivent avec une idée préconçue, et c'est pas forcément ce qu'il leur faut, quoi. Or, ça, vous pouvez pas forcément leur dire, parce que parfois, les gens ne veulent pas l'entendre. Ils ont passé des heures à regarder sur Internet, ils ont regardé des comparatifs, ils ont regardé ceci, cela, et bon, bah, ils sont persuadés d'avoir le bon choix en tête. Donc, dans ces cas-là, il faut pas les braquer, parce que si vous les braquez en leur disant mais attendez c'est pas ça, vous allez remettre en cause leur travail, leurs heures qu'ils ont passées à essayer de trouver la bonne solution, le bon truc, etc. etc. Donc en fait il faut éviter de faire ça. Il faut par contre comprendre et dire ok, ben voilà, j'ai compris, vous avez choisi un bon modèle, c'est vrai que c'est pas mal, est-ce que c'est pas mal pour ceci, pour cela, mais ensuite ce que vous faites en fait, vous dire, mais vous savez qu'il y a aussi ça, 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 ça à voir, mais ça peut être intéressant, tenez, regardez, etc. Donc, orienter la vente, ça c'est quelque chose qui est important parce qu'un vendeur a un devoir de conseil. Il faut chercher en fait à l'orienter vers le bon produit parce que parfois les gens qui ne sont pas spécialistes dans le domaine, et bien, ils peuvent se tromper. Et puis sur Internet, forcément, on n'a pas l'exhaustivité de tout. Et puis dans un magasin, on n'a pas l'exhaustivité de tout. Donc si on n'a pas le produit en magasin, on peut trouver une solution qui peut être adaptée au client. Et même si c'est pas 100% de ses besoins, c'est 95%. Et si 95% de ce qui est le plus important, ben on y va quoi. Donc moi, ce que je vous conseille dans votre plan d'action, tout simplement, ah oui, une dernière chose aussi, un vendeur doit également être là pour maîtriser le cycle de vente. C'est-à-dire que vous ne devez pas en fait laisser le prospect décider de ce qu'il va faire, parce qu'autrement vous perdez la mainmise. Ça, je l'ai vu plusieurs fois hein, quand on dit au client, quelles sont les prochaines étapes? D'ailleurs, c'était pas plus tard que la semaine dernière. J'étais sur un très gros client et puis donc bah voilà, j'étais avec un commercial. Puis bon, on tournait un petit peu autour du pot. Le client, il avait donné tous les signes qu'il était intéressé, on continue à faire le blabla, la discussion. J'ai dû dire, demander, ok, d'accord, bah maintenant c'est quoi les prochaines étapes? Ok, et bon, ok, ou alors c'est ce que je dis, je crois que c'était bon. Alors maintenant, comment on fait pour avancer? Vous voulez faire comment? Voilà, et là, tac, on verrouille la vente. Ben, soit le client vous dit merde, et là vous êtes capable d'argumenter, soit en fait, ok, ben voilà, on a passé une étape, on est passé dans une étape du cycle de vente, et là, bam, on passe directement à la vente. Alors je vous ai mis également dans l'article sur le blog de Sparkline, hein, vous avez également des vidéos de stratège marketing sur comment ça va influencer et un petit bouquin audio sur petits traités de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Il y a un petit extrait qui est dedans. Voilà. Un autre point en fait, c'est l'optimisation du parcours client. Alors le parcours client, c'est un grand mot pour dire tout simplement que le client, bah, il passe sûrement par une phase où il recherche des informations, il a de l'intérêt, il évalue les solutions, il fait sa décision, et puis après, bon, bah, faut le retenir. Voilà. Donc ce qui est important, c'est d'optimiser le parcours de son prospect afin d'abord de répondre à ses attentes, lui donner confiance, le rassurer, etc. Ensuite, de l'aider à faire son choix. Ensuite, l'écouter et faire un compte rendu de réunion, lui poser des questions sur son projet, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Tout le monde le fait, tout le monde le dit. Par contre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller au-delà maintenant. C'est-à-dire que si vous voulez aller convaincre un prospect, alors vous avez déjà des concurrents, il faut lui faire vivre une expérience exceptionnelle. Alors, une expérience exceptionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement lister toutes les étapes, tout ce qui se passe du premier contact à la signature pour un de vos prospects. Donc voilà, par exemple, vous recevez le formulaire de votre site internet par email. Vous regardez son site internet, vous appelez la personne. Ensuite, vous convenez d'un rendez-vous. Vous faites votre démonstration, votre présentation. Ensuite, vous auriez peut-être un compte rendu de réunion. C'est pas toujours le cas. Ensuite, la personne vous dit envoyez-moi un devis. Vous envoyez une proposition commerciale. Ensuite, ce que vous faites, la personne voit le document, vous le rappelez un peu plus tard, et ensuite la personne négocie, etc. Donc, voilà, ça c'est un cycle un peu classique. Vous listez ces éléments-là, mais par contre, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez essayer d'imaginer ce que vous feriez pour que le client se dise « Waouh, ils sont vraiment bons là-dedans, waouh !» Vous devez faire comme si c'était le prospect du siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une affaire à avoir cette année-ci, c'est celle-là. Et vous devez concentrer toutes vos affaires, tous vos efforts sur cette affaire. Donc là, vous listez tout ce qui permettrait de faire la différence. Est-ce que c'est, par exemple, envoyer une petite lettre manuscrite ou un courrier de remerciement, ou c'est appeler la personne après le rendez-vous en disant « Voilà, merci de m'avoir reçu. » Est-ce que c'est un petit SMS pour confirmer le rendez-vous avant ou pour remercier après ? Est-ce que c'est lui faire un petit cadeau lors de la démonstration, dire voilà, j'ai fait un truc comme ça? Est-ce que c'est une présentation, une personnalisation de la démonstration? Moi, je l'ai fait une fois, lors en fait d'une présentation de la société. J'avais une petite vidéo que présentait la boîte bidule. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la vidéo originale et j'ai inséré dedans présentation pour, avec le logo de la boîte que je rencontrais. Et là, je dis, je vous présentais la vidéo. Et là, tout d'un coup, il y a le truc, présentation pour la société Toto. Et là, les mecs ont dit, ah oui, vous avez fait des efforts. Et là, je dis, oui, vous savez, vous êtes important pour nous, etc., etc. Donc, en fait, à vous de voir, qu'est-ce que vous pensez que le client va apprécier, va se dire, waouh, ils tiennent vraiment à mon dossier, moi je suis quelqu'un qui est important pour eux, ils tiennent à ma problématique. C'est prendre des notes, c'est envoyer un compte rendu, c'est etc., etc. Donc, vous allez lister tous ces trucs-là qui vont vous aider à décrocher l'affaire. Et cette fois, vous allez essayer de le systématiser dans la majorité de vos présentations. Vous allez faire une checklist, vous allez faire une procédure. Et voilà, vous allez vous mettre à la place du client. Imaginez comment vous allez, vous aimeriez être traité. Voilà. Regardez un petit peu peut-être dans d'autres secteurs d'activité. Moi, j'ai toujours une référence chez Nespresso. Même si je bois pas de café, je suis allé une fois ou deux. C'est vrai qu'il y a vraiment une attention client. Je suis allé aussi au Japon une ou deux fois en vacances, enfin une fois. Et c'est vrai que c'est là qu'on a une attention, une politesse, etc. Et on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cette expérience d'achat, c'est top. Pour la petite anecdote, j'étais parti grosso modo, on va dire, 10 jours au Japon. Donc, au bout de 10 jours, on commence vraiment à être pris dans la mentalité du pays. Je faisais des petites, entre guillemets, courbettes. Je disais bonjour, etc., etc. Quand je prenais un plat, je faisais attention à avoir de la politesse, etc. Donc vraiment, c'est en 10 jours, on finit transformé et on a vraiment une notion de la politesse. Et là, je suis arrivé à Paris. Allez, ça y est, on était reparti sur le bon vieux rythme parisien, donc speed dans les couloirs. Puis à un moment donné, je voyais qu'il y avait une maman japonaise avec un bébé, puis un petit enfant, puis son mari. Et c'est vrai qu'en bon parisien que je suis, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai dit, attendez, madame, en anglais, excuse me, madame, I will take your suitcase and help you until the borderline. Donc ok, je prends votre valise et je vous accompagne jusqu'à la douane en fait. Et bon, donc je prends la valoche, tac, je les aide à prendre le métro, je les aide à aller à la frontière. Et donc je leur dis, bon allez, ok, thank you, bye bye, juste en arrivée, à vous démerder, comme tout bon français ferait. Et là, je pars comme d'habitude et puis tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui court derrière, c'est la bonne petite dame qui disait merci, merci de m'avoir aidé, enfin en anglais bien sûr. Et c'est vrai que j'ai failli lui dire, mais il n'y a pas de quoi, c'est normal, avec bien sûr le truc un peu parisien, va jouer ailleurs quoi. Et donc c'est là qu'on se rend compte le choc des cultures. Et le pire après, c'était justement quand je suis rentré de l'aéroport. La première chose qu'on a fait, c'est voir le taxi parisien qui gueule dans son taxi, qui conduit comme un malade, qui arrête pas de critiquer. Et c'est là qu'on se dit, waouh, bienvenue à Paris. Et je me disais, waouh, les Japonais qui viennent à Paris avec l'image qu'il y a à la télé, ils vont être complètement dégoûté de la France parce que l'image qu'ils en ont n'est pas du tout celle qu'elle est, surtout à Paris. Il faut savoir en plus que bah, au Japon, la France c'est vraiment le pays du raffinement, etc. Comme ils ont assez peu de vacances, les Japonais qui travaillent beaucoup, bah, quand ils viennent en France, c'est véritablement rare et c'est pour vraiment prendre du bon temps. En plus, à la télé là-bas, il y a des pubs avec l'art de vie à la française, il y a des boutiques de luxe aussi qui sont vraiment très très bien tenues, avec du personnel qui est super calé. Et puis en plus, si vous regardez le Tour de France là-bas, vous verrez en fait que au Japon, les gens ils regardent pas le Tour de France pour le vélo, mais ils regardent le Tour de France pour tout ce qui est partie ben, paysage, déco, etc. Donc en fait, ils ont une image idéalisée de la France et quand ils arrivent, waouh, c'est la douche froide. J'imagine bien que les gens qui s'attendent un petit peu à voir le pays du luxe, du raffinement, s'ils tombent sur mon chauffeur parisien qui m'avait accueilli, qui était un petit peu gueulard, qui arrêtait pas de se plaindre, etc. Je me dis waouh, bonjour l'ambiance quoi. Voilà. Bref, pour finir aussi, j'avais souvent des collègues américains qui venaient à Paris. Mais qu'est-ce qui se passait? À chaque fois, en fait, j'avais un programme classique. Hein, c'était bon, j'habitais dans le 15e, donc il y a un programme classique qui était ben, aller dans une brasserie rue du Commerce, hein, ça va être chez Chartier, si je me souviens bien. Donc en fait, dans la brasserie, avec les serveurs à la française, donc la brasserie, etc. Et ensuite, c'était direction les bateaux-mouches pour faire une petite virée de bateaux-mouches. Et on finissait tout le temps par grimper la tour Eiffel à pied, parce qu'ils trouvent ça vachement, entre guillemets, pas romantique, mais typique en fait, de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, parce que partout ailleurs, ils prennent les ascenseurs. Donc dire, ouais, est-ce qu'on peut monter, et puis monter jusqu'au deuxième, etc. Donc ça, en fait, c'est un truc qui était assez classique, ça coûtait pas très cher, et c'était un truc pour faire un truc un peu sympa. Donc une fois, pour changer, j'ai emmené mes Américains, non pas dans cette brasserie rue du Commerce, mais parce qu'ils m'ont dit, ouais, je voudrais avoir un truc typiquement du sud, et je les ai emmenés rue de la Gaîté, si je me souviens bien. Il y a un petit resto qui s'appelle, je crois que c'est de Plomb du Cantal ou un truc comme ça. Donc c'est un petit resto un petit peu aussi à la française, mais le mauvais à la française, avec donc la table qui est bondée, le serveur qui vous sert une demi-heure après, le serveur à qui vous demandez du pain, de l'eau, etc., et qui fait comme si vous voyez pas, et vous lui demandez, et un quart d'heure après, il vous a toujours pas servi. Donc bref, là, mes amis américains avaient complètement halluciné devant cette qualité de service, et waouh, mais it's not possible. Ils se disaient vraiment que c'était voilà, un truc impossible. Bon voilà, c'était un petit peu la digression, un petit peu l'histoire. C'est pour vous dire en fait que la qualité de service, l'impression est vraiment importante et il faut vraiment se dire comment vous allez donner en fait une impression extraordinaire à vos clients et essayer d'après de systématiser ça. Par exemple, je vois très 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 peu de gens qui envoient une enquête en fait de satisfaction juste après la démo en disant voilà, bah, comment s'est passée la présentation? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a bien répondu à vos attentes? Est-ce qu'on a bien fait ceci? Est-ce qu'on a bien fait cela? Pourtant, c'est la moindre des choses parce que parfois on part, on se dit waouh, la démo s'est bien passée, mais en fait le client, il a peut-être pas du tout cette impression. Et si vous vous intéressez pas à ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire votre proposition commerciale, vous allez rappeler 3-4 jours plus tard, vous dire oui, de façade ça va être bien, mais par contre par email, comme la personne n'a pas cette aspect personnel en face, parfois il peut répondre des choses complètement bah, qui ne sont pas prises en compte et ça vous permettra de vous améliorer. Voilà. Ensuite, le dernier point, c'est contacter les 10 derniers prospects qui n'ont pas acheté et demandez-leur ce qu'ils ont apprécié chez vous, ce qu'ils n'ont pas apprécié, et en miroir ce qui s'est bien passé avec le concurrent qui a rapporté l'affaire. Là, en fait, le but, c'est de voir bien sûr qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce qui a fait qu'il a acheté chez vos concurrents. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes que je vous conseille de faire et qui sont vraiment simples à mettre en œuvre. Optimiser parcours client.